drums that we have. Vous m'avez que j'ai senti un peu de la notion de la popularisation, la meilleure pensée que c'était bien une fois d'aborder ce sujet d'après la tradition juive elle-même, c'est-à-dire la Kabbalah. Alors je vais donc aujourd'hui vous donner quelques remarques, une introduction générale sur ce que représente la Kabbalah. Et j'espère très rapidement que nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse des termes de base qui nous permettraient de prendre connaissance de l'enseignement, en particulier de l'école du Hari, sur la notion de création. Je me propose d'étudier à travers ce séminaire trois notions de base que je vais mettre d'abord en hébreu au tableau. C'est d'abord la notion de création elle-même.
C'est tout le monde.
Et de situer ce terme de Bria, de la racine Baro, créé, disons, le plus possible dans l'ensemble du vocabulaire, soit synonymique ou pas synonymique, approximative, de telle sorte d'avoir, même s'il nous faut deux ou trois séances pour cela, une idée claire de ce que la tradition juive entend par le terme Baro, Bria, que l'on traduit par créer, et qui ne recouvre pas exactement les connotations de ce terme en français, et en particulier dans la langue philosophique elle-même. Ça, ce sera la première notion. Ensuite, nous étudierons la notion de Shvira Tatelim. Je vous laisse le voir comme nous. Écoutez, ne vous basez pas sur moi sur les voyelles. J'ai appris l'hébreu sans voyelles et les soucis de mes voyelles ne sont pas exactement celles qui devraient être. En particulier le contact de Kamet, mais ça vous demandez vraiment de comment ça marche avec les voyous. Moi je connais que les voyous. Alors, Shvira Tatelim, qui est une notion très importante de la tradition du Hari, que vous avez certainement rencontré dans sa traduction française, en tête du calife qui paraît de Kabbalah, et qu'on traduit par la brisure des vases, ou l'éclatement des vases. On traitera ça dès qu'on arrivera à cette notion, et qui est la notion que je pourrais appeler l'état de la création dans ce monde-ci. Et quand je dis dans ce monde-ci, bien entendu, ça a simultanément le sens cosmologique, le monde dans lequel nous vivons, et ça a le sens hébreu, à travers le temps, dans l'état présent du monde. Olamazé, c'est-à-dire le stade actuel de l'état de la création. Nous allons apprendre, notre monde est créé à l'origine, et puis il se trouve dans un certain état, qui est en particulier un état de chaos, si vous voulez, à la limite, encore de chaos, et qui est en particulier éclairé par cette expression de Shvira Tatelim, cette catégorie particulière de littéralement la brisure des vases. Alors, on se demandera ce que les kabbalistes veulent dire en employant cette expression, et nous verrons aussi, suivant d'ailleurs vos questions, votre participation à l'étude, quels sont les thèmes que l'on pourrait énumérer et qui seraient éclairés en particulier par une telle notion. La troisième notion, c'est la notion de tikkun. Bon, alors je vous mets ici les vases. Très rapidement, on se parlera un peu hébreu, c'est plus clair. Et la troisième notion, c'est la notion de tikkun, c'est-à-dire de restauration, et de remise au point de ces traces de chaos qui sont éclairées par cet état de Shvira Tatelim. Le tikkun, la restauration de l'état du monde. Voilà les trois notions de base qui nous serviront de ligne conductrice, de fil conducteur si vous voulez. Alors bien évidemment, étant donné que c'est un sujet extrêmement vaste, d'autres notions viendront se greffer par implication ou par association suivant notre étude. Bon, première remarque très générale, et ensuite je vous proposerai une définition de ce que l'on entend par la Kabbalah. Alors à partir de maintenant, dès qu'un mot a été traduit, on va essayer de l'employer surtout en hébreu. Parce que le mot de Kabbale a une telle connotation dans la littérature contemporaine qu'on ne sait pas toujours très exactement de quoi on veut parler. Par exemple, vous avez une définition possible, la mystique juive. Mais en général, ce genre de définition complique le problème à définir. Alors maintenant, il faut de nouveau définir qu'est-ce que c'est que la mystique. Par conséquent, ce n'est pas par ces voies-là que j'essaierai d'aborder le problème. Mais première remarque, ça peut vous paraître inhabituel, en tout cas en particulier de ma part, d'emblée de traiter en public un sujet concernant la Kabbalah. Mais depuis quelques années, il y a une espèce de phénomène, d'abord de phénomène de librairie, et ensuite un phénomène que j'ose pas dire de mode, seulement parce que derrière cette apparente mode, il y a quand même une recherche qui, dans sa motivation profonde, semble assez sérieuse, une recherche d'identité et se référant à la tradition juive, qui d'emblée, dans le temps où nous vivons, vise directement à ce que nous appelons la Kabbalah. Alors peut-être ça nous permettra de mettre au point un certain nombre d'idées reçues, d'idées fausses, d'idées de vulgarisation qui parfois malheureusement touchent vraiment au charlatanisme. Et je vous dis tout de suite, pour que ce soit bien clair, nous n'allons pas faire de Kabbalah, nous n'allons pas étudier la Kabbalah. Mais un certain nombre de termes, de vocabulaire traditionnel employé par les kabbalistes par rapport à notre sujet de cette semaine, qui est la notion de création. Bien entendu, non seulement vous pouvez, mais vous devez vous poser à vous toutes les questions qui se poseront à vous. L'objectif, c'est d'avoir, à la fin de la semaine, quelques idées claires et distinctes sur ce problème. Si ça fait partie du sujet, si je peux vous répondre, si j'en ai la compétence, c'est pas toujours évident a priori, alors on l'étudiera, sinon on signalera qu'il y a là un problème, soit de vocabulaire, soit d'érudition, mais une façon de clarifier un peu toute cette atmosphère. Je disais tout à l'heure un peu charlatanesque, peut-être que le mot est trop tendre, il y a peut-être même parfois quelque chose de plus grave, enfin, quelque chose qui frise l'escroquerie parfois, autour de ce problème. Donc c'est suffisamment clair. Alors, ce matin, nous allons d'abord réfléchir à cela. Lorsque nous employons le terme de Kabbalah, qu'est-ce que cela signifie? Alors d'abord la racine. La racine du mot Kabbalah, c'est ces trois lettres, Kouf, Bet, Lamed, les Kabel. Les Kabel, ce terme a deux sens fondamentaux. Les Kabel, ça veut dire d'abord recevoir. Et par conséquent, si nous définissons la tradition par le terme de Kabbalah, ça signifie de façon très précise une tradition en tant qu'elle a été reçue. Kabbalah. La tradition que j'ai reçue s'appellera Kabbalah. Alors que nous avons un deuxième terme qui signifie aussi tradition. Mais la tradition en tant qu'elle est transmise, c'est un tout autre terme qui est Masorah. Et vous voyez la différence du vocabulaire. Ici, c'est la racine, Masorah, même Samer Resh. Masorah, c'est transmettre, alors que Kabel, c'est recevoir. Nous allons réfléchir d'abord sur cette première thème qui est définition séduisante. C'est-à-dire, une tradition implique, du point de vue de son authenticité, le fait de se transmettre. Mais il y a deux gestes dans la transmission, si vous voulez, la transmission à proprement parler, et puis la réception. Le problème le plus important, et vous l'étudiez en général dans l'enseignement du Maharal sur la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe kibel Torah Misinai, Nisara Yoshua, Moïse a reçu la Torah à partir du Sinaï et l'a transmise à Josué. Mais la première question qui se pose dans cette dialectique de ces deux termes, Kabbalah et Masorah, c'est que, est-ce qu'on est assuré que tout ce qui a été transmis a été reçu? Est-ce que vous comprenez ma question? C'est-à-dire, on transmet, mais est-ce que celui qui reçoit tout ce qui a été transmis? Cette question va nous permettre et nous obliger à passer à un deuxième niveau de sens. Et d'abord, celui-là, Kabbalah, tradition en tant que réception, est le plus courant, il n'est pas faux, mais enfin, nous voyons tout de suite qu'il est insuffisant. Surtout que cela désigne bien évidemment dans l'usage, disons, l'aspect ésotérique de la tradition juive. Ce qui est transmis est reçu à des initiés. D'où cela vient-il? Bien, en tout cas, sur cette première remarque, je voudrais l'éclairer par une expression hébraïque habituelle qui désigne ce geste de la transmission traditionnelle. En français, on emploie l'expression de bouche à oreille, alors qu'en hébreu, on dit de bouche à bouche. Quelle est la différence? On peut d'ailleurs traduire l'expression française mipé la ozen, de bouche à oreille, mais la bouche transmet, l'oreille reçoit. Et c'est là que se pose notre question. Est-ce que l'oreille a vraiment reçu ce que la bouche a transmis? De telle sorte que par la suite, la bouche de cette oreille transmette ce que l'oreille avait reçu de la bouche. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors qu'en hébreu, nous disons ni PLP, de bouche à bouche. Mais la différence est très importante. Il faut, pour que la Kabbalah soit assurée d'être la Kabbalah première, tradition reçue, pour que la Kabbalah soit assurée d'être la réception de ce qui a été transmis, il faut qu'il y ait répétition scrupuleuse de ce qui a été dit. C'est-à-dire que la bouche doit répéter ce que la bouche avait dit, mais pas ce que l'oreille a entendu. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment ici, la précision du vocabulaire montre qu'il y a dans la tradition hébraïque, à proprement parler, un scrupule important. Pourquoi? Et en particulier en ce qui concerne cette ligne ésotérique de la transmission traditionnelle. Eh bien, c'est parce qu'il y a, du point de vue de la transmission elle-même, deux possibilités. Ou bien celui qui reçoit, comprend ce qui a été dit, et alors, à travers l'expérience de compréhension, on peut être assuré que l'oreille a bien entendu ce que la bouche avait dit. Parce que l'oreille ne se borne pas à être un relais formel de reconduction de la parole, mais un relais, comment dire, vivant, un relais de compréhension. La bouche d'une oreille qui a compris peut transmettre avec beaucoup plus de sûreté ce que la bouche premièrement avait dit. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est, si vous voulez, les deux sens du mot shamoa en hébreu, shma, qui signifie simultanément écouter, entendre et comprendre. Alors, si nous sommes assurés que l'oreille qui a entendu comprend ce que la bouche lui a dit, alors à ce moment-là, la transmission est assurée, à travers la sûreté de la compréhension. Mais nous nous posons la question à travers toute cette étude, mais qui comprend lorsque je dis l'oreille entend, comprend? Qui comprend? L'erreur à ne pas faire, notez ça déjà comme problème important, c'est de croire qu'il s'agit d'une compréhension intellectuelle, c'est-à-dire d'une compréhension à travers ce que nous appellerons provisoirement aujourd'hui déjà la raison, l'intelligence. Et nous verrons qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Ce n'est pas l'intelligence qui comprend, c'est l'âme qui comprend, la neshama qui comprend, et par conséquent, si vous voulez, le critère de sélection, le critère d'élection de la lignée des initiés à une telle tradition ne passe pas par la capacité de l'intelligence, mais par la qualité de l'être. Je vous donnerai un exemple pour éclairer cela. Je me souviens d'avoir entendu cette expression dans la perspective matérialiste d'explication de la vie, c'est que l'œil serait une lentille qui voit. Or, l'œil est peut-être une lentille, mais ce n'est pas la lentille qui voit. Il suffit de comprendre. Derrière cette lentille, il y a quelqu'un qui voit à travers la lentille ou grâce à la lentille. Vous voyez la formulation matérialiste, si vous voulez, de réalité biologique, l'œil est une lentille qui voit. On est séduit par de telles formules, mais dès qu'on y prend garde, on s'aperçoit que c'est comment dire, du psittacisme, du jeu de mots, du verbalisme. Okay? Non, l'œil est une lentille, peut-être, sûrement, une lentille peut-être d'ailleurs plus que lentille, mais grâce à laquelle je vois. Mais qui est ce jeu qui voit grâce à cette lentille? Ben, c'est pas l'œil, c'est mon âme. C'est moi. Est-ce que vous comprenez la famille? Il y a, par exemple, des expressions comme, on revient de mes études de philosophie, que le cerveau secrète la pensée à la manière dont le foie secrète la bile. Et ça devait être d'ailleurs un philosophe un peu pessimiste, parce que le foie ne secrète pas seulement la bile, il secrète aussi le mucose. Comme ça se dit, la fonction mucosomique du foie, ben c'est ça le mucose. Et non, vient la critique avec Bergson de cette définition matérialiste de la raison, de l'intelligence, de la pensée, des fonctions de la pensée, lorsque il avait entendu dire, à la découverte du téléphone, que le cerveau était comme un central téléphonique, mais il ajoutait, oui, mais il y a une téléphonie. Et bon, c'est à peu près dans ce sens-là. Nous verrons que dans ce jeu de la transmission de bouche à bouche à travers une oreille, eh bien, si l'oreille comprend, alors il y a, comment dire, on peut être assuré, comment dire en français, assurance de cette transmission. Et c'est quand l'oreille comprend que la bouche répète ce que la bouche a dit. Mais s'il n'y a pas compréhension, alors cette transmission peut se faire quand même, mais en traversant les âges, en traversant les générations, par répétition scrupuleuse de ce que la bouche avait dit, jusqu'à ce que cela soit entendu par l'oreille d'une âme qui comprend. Est-ce que c'est clair? Je crois que de ce point de vue-là, on y reviendra. Il faudrait retrouver ce terme que c'est une transmission de mémoire, beaucoup plus qu'une transmission d'érudition. Alors bien entendu, ce n'est pas n'importe quoi qui est transmis, mais nous sommes assurés qu'il y ait vraiment Kabbalah, qu'on ait reçu ce qui a été transmis, que dans la mesure où la compréhension passe. Sinon, alors ce sont ces temps de patience, ces temps de, comment dire, de reconduction, et où la vertu, c'est le caractère scrupuleux de la forme de ce qui est transmis, précisément parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et je crois que les historiens des traditions emploient le terme de acousmatique pour dire une tradition exotérique qui transmet les formules de la connaissance à travers même ceux qui n'ont pas la capacité de compréhension de cette connaissance, mais qui ont le scrupule de l'authenticité de la transmission. Tradition acousmatique, vous voyez, l'oreille, ce que l'oreille a entendu. Et il semble avoir étudié ça à propos de la tradition pythagoricienne, c'est ce vocabulaire que les historiens emploient, la tradition mathématique, dans le sens étymologique du terme en grec, qui signifie la compréhension de ce qui est transmis. Sinon, il n'y a plus qu'une orthologie, c'est-à-dire orthodoxie du langage. Et vous remarquez, ceux d'entre vous qui ont déjà commencé à s'initier au texte traditionnel, à quel point le scrupule de la minutie de la forme pour garantir l'authenticité de la connaissance est important. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de charlatanisme, un peu, bon, le mot est peut-être exagéré, dans ma pensée c'est un mot encore trop tendre, et dès qu'il y a eu cette découverte dans le temps contemporain de la tradition kabbaliste du judaïsme, espèce de magma de vocabulaire approximatif, flou, vague, les mots qui dansent autour des mots, des idées, et on ne sait pas exactement de quoi il y a parlé, d'autant plus qu'une tradition de cette nature ne peut se transmettre que dans sa langue d'origine. La deuxième règle du temps, pas seulement le scrupule, la forme de ce que l'oreille a entendu de la bouche, mais qui a dit quoi? Et cette deuxième règle est extrêmement importante. C'est déjà d'ailleurs la règle de la tradition talmudique elle-même, qui elle fait appel à, comment dire, à l'éclairage par l'acuité du raisonnement, de la raison elle-même, mais Polchekel, d'autant plus pour la tradition à proprement parler ésotérique, la même formule dite par quelqu'un de différent peut avoir à toujours une connotation de sens radicalement différente. Si par exemple c'est un homme de la tradition chrétienne qui cite un verset de la Bible, ou si c'est un homme de la tradition juive qui cite un verset de la Bible, le verset apparemment serait le même, dans la mesure où il y a scrupule de la transmission formelle au niveau du langage, du vocabulaire, dans l'orthologie, orthodoxie du langage. Mais vous comprenez bien que l'âme qui a derrière la bouche qui parle veut dire autre chose radicalement. Il y a un petit exemple dans la législation talmudique à propos des règles de la liturgie. Il y a un certain nombre de mots clés dans la prière qu'il nous est interdit de répéter deux fois dessus. Par exemple, on n'a pas le droit de dire, vous avez étudié ce texte, on n'a pas le droit de dire modine, modine. Modine, nous reconnaissons, Odaya, ça veut dire témoignage d'allégeance. Nous reconnaissons ta souveraineté. On n'a pas le droit de répéter ce mot-là deux fois dessus. Nous reconnaissons, comme si nous étions devant deux souverainetés. Bien, on n'a pas le droit de dire Shema, Shema, écoute, écoute Israël, deux fois de plus. Bon, il faudrait de savoir si c'est mot par mot ou le verset qu'on ne peut pas répéter immédiatement après. J'avais demandé une fois un de mes maîtres qui nous l'a éclairé de cette manière. En ce cas, il s'agissait de Shushanu, nous avons entendu parler du grand Shushanu. Il nous disait, écoutez, c'est très simple à comprendre. On va citer un épisode. Alors, si on lit l'Epsomme devant Dieu, dans la tradition juive, ce même texte a une signification, mais devant Dieu unique. Mais si c'est un homme de la tradition chrétienne, il commencera par avoir une précaution liturgique, il dira au nom du Père, au nom du Fils, ce même somme à tout autre. On sait faire déjà deux solennités. Bien entendu, théologiquement, on affirmera que c'est la même, enfin, c'est déjà plus. Bien qu'il y ait orthodoxie formelle, le contenu est radicalement différent. Donc, si vous voulez, on retiendra ces deux règles. Deuxièmement, premièrement, qu'est-ce qui a été dit par la bouche qui transmet à l'oreille? L'un veut s'adresser à la bouche qui transmettra, et non pas seulement à l'oreille qui risque de faire obstacle. Et deuxièmement, qui a dit quoi? Bien. Alors, je récapitule cette première analyse, si c'est suffisamment clair. Premier sens habituel, Kabbalah, tradition en tant qu'elle est reçue. Est-ce que c'est suffisamment clair jusque-là? Alors, nous nous sommes posé la question, mais est-ce qu'on est assuré de recevoir ce qui a été transmis? Il y a toujours plus dans ce qui est transmis que dans ce qui est reçu. Bien, on va avancer. Je vous donnerai trois sens de ce terme assez rapidement. Le deuxième sens, c'est que, en réalité, lorsqu'on s'interroge sur l'emploi de ce terme, au niveau des personnes qui transmettent cette tradition de la Kabbalah, on les appelle les Mekoubalim. Nous allons nous appuyer un petit peu sur une analyse grammaticale. Or, les Mekoubalim, ça ne peut pas se traduire en français par l'expression « ceux qui reçoivent les initiés » dans le sens de ceux qui ont reçu cette tradition qui est transmise. Il faudrait dire en hébreu, si c'était ce sens-là, les Mekabelim et non pas les Mekoubalim. Est-ce que c'est clair, justement? Tout le monde entend bien cela. Par conséquent, là, il y a un mystère déjà au niveau du langage. Si nous voulons traduire le terme de Mekoubalim par les kabbalistes, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en disant les kabbalistes? Ceux qui reçoivent cette tradition en tant que réception, cette tradition transmise à des initiés parce qu'on transmet d'âme à âme et non pas de raison à raison, et alors il faudrait dire les Mekabalim. Ani Mekabel, je reçois, et dans ce cas une Masora, une tradition transmise. Non, on les appelle des Mekoubalim. Et ça veut dire ceux qui sont reçus. Et non pas ceux qui reçoivent. Mekoubal, c'est-à-dire celui qui est reçu. Je vous donnerai d'ailleurs tout de suite une lecture talmudique de ce terme qui va éclairer notre propos. Et il faut tout de suite bien comprendre cette question que pose notre deuxième définition, dépasser un sens purement superficiel, qui consisterait à définir l'initié comme étant reçu dans un cénacle, étant reçu dans un cénacle d'initié. Ce n'est pas ce sens-là. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Cela signifie, dans le langage de la tradition juive, ce dont la prière est acceptée, ce dont la prière est reçue. Je vous donne tout de suite la réponse. Les Mekoubalim, ils sont reçus dans leur prière. C'est important parce que ça nous donne tout de suite une définition de l'objet de cette transmission. D'une certaine manière, c'est la science de la prière, la Kabbalah. Puisqu'on appellera Mekoubalim, ceux précisément dont la prière est reçue. Alors, je vous donne cette référence, c'est, si je me souviens bien, la fin du cinquième chapitre du traité de Rachi. On va faire rapidement, et nous passons après à un troisième sens. Je vais donner la page. Vous avez donc ce texte à la page 34b, la Madalette B, du traité de Brachot. Je peux déjà effacer cela. Alors nous avions déjà Kabbalah. Deuxièmement, Mekoubal, celui qui est reçu. Alors, postulat dans sa prière. Voilà, la Mishnah dit ceci. Hamit Palel Vetara, celui qui prie et qui dans sa prière s'est trompé. S'est trompé, et la définition de cette erreur est très simple. Il dit un mot à la place d'un autre. Amit Palel Vetara, celui qui se trompe dans sa prière, La Mishnah dit Siman Ra'alo. C'est un mauvais signe pour lui. Je vais analyser très rapidement, c'est fatalement le sujet, mais pour vous donner la citation exacte. Les Im Shaliar Tibour, et si c'est un envoyé de la communauté, Shaliar Tibour, on pourrait dire Hazan aujourd'hui, ce n'est pas le chantre, mais celui qui, à travers qui la prière commune de la collectivité, de la communauté, est formulée et portée par le délégué de l'Assemblée. Simandra Meshulcha. C'est un mauvais signe, pas pour celui qui a été chargé de prier pour une communauté, non, de porter la prière de la communauté, mais pour ceux qui l'ont désigné comme étant leur envoyé. La deuxième règle, c'est une peine chez Shiloh Shel Adam Kemot. Parce que ce qui envoie un envoyé, non, c'est-à-dire l'envoyé de quelqu'un, et comme délègue, on lui délègue non seulement une mission, mais une personnalité. Or, on a raconté à propos de Rabbi Chanina ben Dosa, Shayam il fallait à la Choli, qui priait pour les malades. Et il disait, Zechai, Zeme, celui-là est vivant, celui-là est mort. Vous pouvez mettre ça au futur, celui-là vivra, celui-là mourra. Mais il voit qu'il est déjà ou vivant ou mort. Amroulo, on lui a dit, on lui a demandé à Rabbi Chanina ben Dosa, Minaïn atayodea, d'où le sais-tu? Amarlaël, il leur répond. Si ma prière est aisée à ma bouche, c'est-à-dire, vous vous rappelez du début de la Mishnah, celui qui prie et en priant se trompe, c'est un mauvais signe. Et essayons de comprendre de quoi il est parlé. Si quelqu'un prie sérieusement, ça veut dire en ayant conscience de la situation dans laquelle il se trouve devant Dieu, il bafouille, alors c'est qu'il y a un certain désordre qui s'exprime. À ce niveau de sérieux, d'authenticité de la situation où on se trouve. Et quelqu'un qui fait la prière, qui dit des mots avec sa bouche, c'est pas ça dont on parle. Quelqu'un qui prie vraiment, c'est-à-dire qui a conscience d'être devant Dieu, et dans cette situation-là, il s'exprime mal. Lapsus, okay? Le lapsus, et ça nous le savons d'autre part, est vraiment le signe d'un désordre qui se laisse exprimer. Okay? Nous allons apprendre par la réponse de Rabbi. Rahina Ben Dosa, lorsqu'il lui a demandé, mais comment le sais-tu? La Gemara reprend ce thème et lui demande, est-ce que tu es prophète? C'est important de définir cela, je le disais tout à l'heure. Est-ce que tu es prophète pour savoir si ta prière est exaucée? On dit non, j'ai un signe. Si ma demande est aisée à formuler, c'est par là que je sais qu'elle est acceptée. Si ma demande ne peut pas être formulée, c'est par là que je sais qu'elle est refusée. Bien, alors vous allez dire, mais à un certain niveau, et ici, une espèce de mécanisme, à la limite, qui ferait penser à la conduite magique, alors l'efficacité des mots bien prononcés, oui. Si on comprend quelle est la situation dont on parle, quelqu'un qui a conscience, en prenant cela au sérieux, d'être devant Dieu, demandant quelque chose, et voilà que, acte manqué, il dit autre chose que ce qu'il veut demander. Par conséquent, il y a là un signe de désordre. Ce que dit la Mishnah, Amit Palel Veta'a, Simandra. Est-ce que c'est clair? Bon. Je veux dire, l'effort qu'il faut faire, c'est de penser cet enseignement au-delà de ce que pourrait être une conduite de superstition, de la conscience magique. Je crois que tout n'est pas dit dans ce que je viens de dire, mais c'est pour désigner la conduite. Alors voilà la réponse de Rabbi Hanan de Nossa. Im shugura tefilati beshi, si ma prière est ouverte, yodea ani shehu mekubal. Je sais qu'il est mekoubal, c'est-à-dire accepté, agréé, dans sa prière. Est-ce que c'est vrai? Vimla, et sinon, Yodé Arani, Féou Metoura. Sinon, je sais qu'il est déchiré, rejeté. Voilà, vous avez un exemple d'une citation dans le Talmud où le mot de mekoubal est employé et il ne signifie pas du tout ce que l'on pourrait croire. Celui qui reçoit une tradition réservée à des initiés, c'est vrai dans le contenu, mais c'est pas ce qui est dit dans le terme. C'est celui dont la prière est acceptée. C'est le deuxième sens. Par conséquent, apparaît une définition de la Kabbalah en tant que telle, qui maintenant peut être formulée plus clairement, c'est finalement à la limite la science de la prière. En tout cas, retenons que c'est l'objet d'utilisation des connaissances de cette tradition qui est nommée la Kabbalah, le seul objet autorisé par l'orthodoxie de la tradition juive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mekoubal, est autorisé à utiliser ses connaissances de la parole révélée, de la prophétie, comme nous verrons tout à l'heure, pour pouvoir formuler la prière. Tout ce qu'on appelle la Kabbalah Maasi, la Kabbalah pratique, est interdit depuis déjà un certain nombre de siècles, parce que s'il met l'état de la relation de l'humanité à travers Israël avec le problème de la prophétie est tel que tous les risques de sortilège, enfin de prise de, je ne sais pas comment vous dire, apparaissent. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, nous avons un critère très simple pour savoir si un kabbaliste est authentique, c'est si il se sert de ses connaissances, de sa tradition, pour formuler la prière. Pour toute autre conduite qui, à certains siècles, était authentique et autorisée, cela est interdit. Est-ce que c'est clair, Gilbert ? Vous avez là un critère d'authenticité. Bon. Maintenant, lorsque les kabbalistes se réunissent entre eux, là, c'est un autre problème. Nous sommes un peu en dehors. Mais premièrement, définition, donc, la science de la prière. Est-ce que ça suffit pour cette référence ? Ceux qui sont un peu plus avancés dans le texte, vous verrez ce que Rachid dit de la Mishnah que je viens de lire. Donc, je rappelle la référence, c'est page 34b. Dans la Mishnah, il nous dit Hamit Palel Betara, Siman Rarlo, et la réponse de Rabbi Hanina ben Dosa, Un Shegura Tfilati Dessu, Yodéani, Shehu Mekubal. Donc le terme de Mekubal dans le langage talmudique a toujours signifié celui dont la prière est acceptée. Une fois ceci élucidé, alors on peut élargir la définition du terme, celui qui est accepté comme dit de recevoir cette tradition qu'on va lui transmettre. Mais c'est un sens déjà dérivé. Entre-temps, nous avons appris une chose importante que nous allons d'ailleurs garder en mémoire. J'en arrive à la troisième définition, et celle-là est directement reliée à notre sujet. Je reprends la définition de la notion de création, et nous serons occupés déjà ce matin à poser un certain nombre de problèmes concernant cette notion. Nous verrons, premièrement, que cette notion n'a pas de signification pour la pensée rationnelle. C'est pas de définition, si j'ose dire, un terme, une notion, une catégorie qui ne peut être qu'objet de foi. Elle est au-delà des prises de l'intelligence, nous aurons à l'étudier en détail. Là, il y a à la fois une question de contenu et un problème de méthode important qui se pose sur ce premier point. Et tout ce que nous pouvons en retenir, déjà, c'est que dès que cette notion de création est acceptée, et nous verrons quels sont les postulats qui nous mènent ou ne nous mènent pas à l'accepter, et apparaissent deux définitions de l'être. Puisque le résultat de l'acte créateur, qui a pour objet l'existence du monde, le résultat de l'acte créateur, c'est que avant il n'y avait pas de monde, après il y a un monde. Donc en réfléchissant sur l'expérience de la connaissance du résultat du créé, nous pouvons avoir l'idée de l'intention du créateur. Il suffit de lire le résultat. Est-ce que c'est suffisamment clair ? C'est-à-dire, je ne comprends pas, par la raison, ce que signifie qu'un être apparaisse à partir du néant. C'est surtout cette analyse que nous verrons comme analyse de base tout à l'heure. Par définition, cette notion est au-delà des prises de la raison. Elle est objet de foi. Et c'est une erreur de la familiarité de croire que l'évidence qu'une telle notion véhicule, parce que nous sommes familiers à la tradition de foi qui véhicule une telle notion, est de l'ordre rationnel. C'est une évidence, mais qui n'est pas du tout de l'ordre rationnel. Lorsque un homme d'intelligence normale vous dira « Cette notion, je ne la comprends pas, c'est lui qui a raison, elle est incompréhensible pour la raison. » Mais nous verrons pourquoi tout à l'heure. Mais si j'adopte par postulat une telle notion, alors elle véhicule cependant une connaissance qui m'est accessible. Avant l'acte créateur, il n'y avait pas de monde. Après l'acte créateur, il y a un monde. Par là, je peux d'une certaine manière comprendre l'intention du créateur, c'est qu'il y ait un monde. Est-ce que vous plaît ? Mais là apparaît une catégorie importante. C'est donc que lorsque j'emploie le terme de l'être, je suis renvoyé à deux catégories d'être. L'être créateur et l'être créatif. Et que je ne peux pas donner la même définition au terme de être si je désigne le créateur ou la créature. Apparaissent là deux manières d'être. Une manière d'être qui consiste à être en tant qu'elle donne l'être. C'est l'être créateur. Et une manière d'être qui consiste à être en tant qu'elle reçoit l'être, c'est l'être créatif. Alors faisons un petit effort d'analyse métaphysique, et tout de suite, à partir de maintenant, je m'aperçois que le mot de être ne peut pas être employé dans le même sens si je fais allusion à l'être créateur et à l'être créatif. Et vous devinez le monde de fausses questions, de malentendus, de faux problèmes qui s'évanouissent dès qu'on a noté cela. Que la catégorie de la création va introduire une différence d'essence entre l'être créateur et l'être créatif. L'être, c'est l'être. Oui, mais dans quel sens? Et tout de suite, nous sommes au bord d'une catégorisation radicale. L'être donnant l'être et l'être recevant l'être sont deux manières d'être radicalement différentes que nous avons l'un créateur, l'autre créatif. Parce que c'est suffisamment clair. Je noterai tout à l'heure, nous noterons tout à l'heure, déjà dans le cours suivant, que l'intérêt de la connaissance à propos de cette notion s'est immédiatement déplacé. La question que j'ai posée à nous avait une signification métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire ex nihilo? Qu'est-ce que ça veut dire bria, yesh me'ayim? Qu'est-ce que ça veut dire créer à partir du néant? Mystère pour la raison, comprends pas. Incapacité de poser même le problème pour la raison. Nous reviendrons sur l'analyse tout à l'heure. Et nous étions habitués, en sortant de la philosophie, si j'ose dire, à nous poser la question à un niveau d'interrogation métaphysique. Et nous sommes renvoyés à un mystère de l'irrationnel, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un contenu d'évidence notionnel, mais n'est pas d'ordre rationnel. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et puis tout de suite, on nous a déplacé l'analyse, et là je commence à me baser sur l'enseignement d'un des grands commentateurs contemporains, enfin, commentateurs traditionnaires, contemporains de la tradition du Hari, et qui est le Rav Ashlag, qui est décédé il y a quelques années, et j'ai eu le privilège d'être l'élève d'un de ses enfants, de la tradition kabbaliste polonaise, touche un peu au chassidisme, mais il a été le principal commentateur contemporain de l'enseignement du Hari. Pour tous les renseignements historiques, soit nous aurons un exposé là-dessus, soit je vous renvoie aux encyclopédies, c'est que la notion s'est déplacée à un registre de signification morale. Le fait de donner l'être n'est pas, pour la tradition juive, un acte compris formellement métaphysiquement. C'est tout à fait autre chose qu'un processus automatique, ce qui introduit une difficulté dans la difficulté qu'on voulait résoudre. D'émanation automatique, impersonnelle, de l'être émanant de l'être. Comme s'il y avait. C'est à expliquer. On voulait déjà expliquer la relation entre l'être donnant l'être et l'être recevant l'être, mais on nous l'explique par une notion qui introduit une difficulté supplémentaire, le caractère de nécessité automatique d'émanation d'être à partir d'une source d'être. Et là, je vous renvoie au non-platonicisme et au non-plotinisme de la tradition kabbaliste. Ce n'est que par, d'entendre ça à l'université, mais par analogie tellement qui véhicule une ignorance radicale de ce dont on parle, que lorsque nous arrivons au terme de Hatzilut, émanation d'être, on renvoie aux catégories platoniciennes, plotiniennes. Vous voyez de quoi je veux parler? Pas du tout. Donner l'être, c'est pas le résultat d'une espèce de déboîtement, je cherche un adjectif en français, automatique, dans le sens de impersonnel, mécanique. Pas du tout. Mais c'est un acte d'ordre moral. L'acte moral, par excellence, c'est donner l'être à autrui. Et ici, nous l'avons à sa racine totale, faire exister cet autrui qui recevra l'être, qui est donné par l'être donnant l'être. Et nous sommes obligés d'envoyer des approximations verbales pour clarifier cette notion. Mais j'espère que c'est plus simple comme ça. Je préfère envoyer des images verbales que de risquer de véhiculer dans des définitions philosophiques des impropriétés de registre, enfin de glissement de conscience. Retenez déjà que cette notion d'émanation d'être, qui est un des gestes de la transmission de l'être au niveau de l'acte créateur, n'a rien à voir avec les catégories analogues qu'on pourrait trouver dans le vocabulaire platonicien ou plotinien. C'est un acte de décision d'une volonté morale. Faire exister autrui, c'est l'acte moral par excellence. Et vous voyez ce qui s'est passé? Subrepticement, on nous a fait passer d'une donnée métaphysique à une donnée d'ordre moral. Et la question métaphysique est renvoyée au philosophe. Est-ce que c'est clair, justement? Bien. Alors apparaît là une troisième définition de la notion de Kabbalah, et plus exactement de la notion de Chochmat à Kabbalah, qui est la forma, la sagesse, je dirais la science de la réception de l'être. Forma ta kabbala. Est-ce que vous entendez déjà le changement de régime? C'est-à-dire qu'il y a un procédé par lequel on reçoit l'être que l'on reçoit. Un processus, plus exactement. Forma ta kabbala, c'est la manière de recevoir l'être que donne le créateur, de telle sorte que le projet du créateur soit accompli, soit réussi. Je définis la situation de créature comme l'être recevant l'être. Et il y a toute une chorma pour cela. Comment recevoir l'être que l'on reçoit pour que le projet de celui qui donne est accompli. Vous voyez que nous n'avons pas changé de sens. Et comment c'est relié au deuxième sens de la prière? Puisque l'objectif de la prière, dans tous les cas, c'est de recevoir plus d'être. Vous voyez comment ces deux notions sont liées, Chokhmat HaKabbalah, la science de la réception de l'être, et l'objectif du Mekoubal, être accepté dans sa prière. Bon, je pense que cela suffit comme introduction pour comprendre la remarque, pour comprendre à quel point, tout à l'heure, jusqu'à tout à l'heure, le terme de kabbaliste véhiculait un faux sens approximatif. Il s'agissait de autre chose. Ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est lui qui entre dans la franc-maçonnerie des kabbalistes, ça veut dire celui qui connaît la science de la prière et en cela participe à plus de réception d'être dans l'être qui reçoit l'être. Si quelqu'un entrait maintenant dans la salle, il dirait Charabia, mais j'espère que vous avez bien compris qu'il y a derrière ces mots. Hein, et donc, s'accomplir de plus en plus le projet du créateur. Donc, un petit absaka pour être sûr que tout est bien. Il y a une question à poser sur ce qu'on vient de voir. Il faut en avancer.
Plus fort.
Je vais essayer de poser la question de la manière suivante.
La question, quelle est la question?
Non, est-ce que ce que l'on vient de, d'étudier est suffisamment clair? C'est ça ma question. Je vais la poser de la manière suivante. Je m'adresse à ceux qui auraient l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau depuis un quart d'heure. Alors, ma question est très simple. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur ce terme de Kabbalah? C'est sûr de vérifier si les choses sont claires.
Je pense que
le silence des espaces infinis m'effraie. Pascal. Quelle est la notion nouvelle qui t'apparaît, Ken?
C'est vrai que j'ai l'impression que j'imagine toujours que c'est quelque chose de très compliqué, et je m'aperçois que c'est quelque chose de très compliqué, mais que c'est en plus aussi essentiel que de respirer. C'est-à-dire que c'est recevoir l'être, mais on ne peut pas avoir, il n'y a pas d'autre définition. Alors pourquoi tout le monde n'est pas avec vous?
Oui, c'est ça. Bon, je vais noter cette question. Pourquoi tout le monde n'est pas avec vous? Très bien. Ken? J'ai une petite question d'être qui aurait du feu. Ça commence par l'être. Je dirais, si je pouvais oser ce jeu de mots épouvantable, au fond que, je ne sais pas si c'est épouvantable d'ailleurs, que toute notre vie, c'est lui. Merci. Que toute notre vie, c'est une sorte d'examen de passage d'une licence de l'être, mais l'être est l'apostrophe.
Oui. Et, justement, au niveau de la lettre ou de l'être, par exemple, le professeur Rougier, que je connais bien, a développé dans un livre l'idée que toute la métaphysique et toute la philosophie ne venaient d'une seule cause, c'est-à-dire de la richesse de la langue grecque pour les désinences et les variations du verbe être, étant, etc. Et que tout venait de cette richesse de vocabulaire, n'est-ce pas? Et alors, je me pose la question, très vaguement, des relations entre cette parole qui n'est que parole et qui donne des sens à la philosophie et de la parole au sens de la tradition juive qui est créatrice à proprement parler.
Attendez, là vous avez déjà posé plusieurs problèmes à la fois, mais ce que je retiens essentiellement pour notre sujet, c'est qu'au fond, nous avons à découvrir ce que nous dit.